Bonjour à toutes et à tous.
Bonsoir, bonjour et
namasté. Namasté à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Home Podcast, votre podcast de la pleine conscience. Et on se retrouve aujourd'hui avec Olivier. On va pas contre les bonnes habitudes pour vous parler de nos recommandations, nos actus, vos actus, ton actu, tu connais la chanson. Et je te tutoie, je te vouvoie, j'alternerai parce que finalement, le pouvoir de la pleine conscience et non pas conscience est toujours là avec nous. Mon cher Olivier, toujours le rituel, est-ce qu'on commence dans un ordre précis? Est-ce que le retour...
Tu as quelque chose dans les mains, vas-y,
j'ai
commence.
Quelque chose dans les mains. Eh ben, en fait, ça va être une anti-recommandation. C'est-à-dire que je ne vais pas vous conseiller ce dont je vais vous parler. Je vais plutôt vous inviter à ne pas le zioter. Et de quoi s'agit-il, me direz-vous? Il y a peut-être...
Je suis obligé de balancer.
Vas-y,
il veut faire deux choses en même temps.
Balance,
donc il n'arrive pas.
Et là, il se dire un petit peu intérieurement, il y a un mix entre chai et admiration. Donc voilà, bref, donc je vais ne pas vous recommander, donc ce sera tout à fait spontané, cadrage, ceci, et ça m'écorche un peu la tronche de ne pas vous recommander ceci, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est Guacamole Vaudou, c'est une alliance entre Eric Judor, on adore, et c'est pas pour la rime riche, moi.
La couverture est juste géniale.
Elle est incroyable, voilà, comme la musique. Et Fab Caro, donc, qui est un bodérec, comme dirait notre ami Pignon, qui est plutôt doué, ma foi. Et là, ça, en fait, malgré la proposition, parce que je n'ai pas dit de quoi il allait être question, non pas de BD, mais de roman photo, Olivier est en train de découvrir. Il y a un esprit, et je pense qu'Olivier va le deviner, limite sans que je lui dise, très très message à caractère informatif,
oui.
Dans le sens côté Startup Nation avant l'heure,
après,
c'est-à-dire dans les années 80, 70, 80.
C'était Fluide Glacial qui faisait ça aussi.
Fluide Glacial faisait... Attends, est-ce que
il
c'est
semble
eux
qu'il y avait...
Est-ce que ce sont eux qui faisaient ça mais ça, en tout cas, pour donner un contexte pour les plus jeunes générations, c'est un truc qui avait beaucoup le vent en poupe dans deux lieux, soit au premier degré dans certaines revues, effectivement, souvent féminines d'ailleurs. Il y avait, je crois, une revue qui était connue qui s'appelait Nous Deux, qui avait été parodiée, je crois, par les nuls dans un roman photo filmé qui s'appelait À nous quatre, ou un truc comme ça, je sais pas si tu te souviens, qui a donné le fameux vous voulez un verre de whisky, vous voulez pas un verre de whisky d'abord, voilà. Et là, ben, grosso modo, pour revenir à ce que je vous disais, et pour pas passer trop de temps, même si l'idée de base était très très bonne, ce fameux Guacamole Vaudou, au moins il y a le titre qui est quand même assez impressionnant, mais en gros ça ne fait que raconter finalement une espèce d'ascension sociale du personnage d'Eric Judor. Il y a aussi des acteurs, actrices, je me souviens surtout de Alison Wheeler, qui est effectivement un peu la femme dont il est amoureux, et puis petit à petit il va un peu devenir un gros con parce qu'il va avoir une ascension sociale où genre on va le reconnaître comme un génie. Ouais, ça a vraiment pas fonctionner sur moi, en tout cas je suis pas le seul, j'ai eu des retours comme quoi, et Dieu seul sait que sur le papier la proposition plus l'association des deux faisait très envie. Ça faisait un moment que je le voyais en libraire et ma médiathèque est venue à mon secours, donc vous voyez, c'est une manière d'être déçu à moindre frais, quitte à, après, si vous êtes pas déçu, à acheter le livre, hein, y a pas de souci. Mais voilà, donc ça c'était la non recommandation, et comme tu as vu, j'avais en main, donc je ne sais pas si tu veux rebondir
à quoi
là-dessus,
tu t'attendais
ou, je m'attendais à un bon délire de l'exploitation effectivement du roman photo, et malheureusement ça fonctionne pas. Je pense que c'était tout à fait possible quand tu vois l'alliance des deux, je sais pas à quel point ils ont collaboré ou si, bref.
J'ai vérifié, c'était bien dans Fluide Glacial que j'en consommais, okay. Et c'était assez drôle,
ouais.
Décalé en fait, parce que c'est ça le but aussi, c'est que ça soit décalé. D'ailleurs la couverture, c'est ce qu'elle annonce, hein. Ça fait très années 70, mais comme, d'un point de vue graphique, mal maîtrisé, kitsch, même pour l'époque en fait, ils ont bien réussi à retranscrire ça. Le truc, c'est que quand on le feuillette aussi, hein, on a vraiment l'impression c'est un truc kitsch et tout. Et du coup, tu te dis...
Il y a quelques planches qui sont sympas, notamment celle que tu es en train de jeter.
Tu te dis peut-être que si c'est bien maîtrisé, ça peut le faire. Et a priori, de ce que tu en dis, non.
Non, malheureusement. J'avais envie d'y croire, fort, mais voilà. Après, bon, voilà, c'est pas la mort, hein, c'est deux gens que... beaucoup de monde, je pense, aime bien. Toutes les alliances ne sont pas faites pour marcher et tutoyer les étoiles. Donc voilà, j'ai envie de dire Guacamole Vaudou. Personnellement, je ne vous recommanderais pas si vous avez été tenté par l'accroche. Voili voilou. Ah, le dessert.
Survivre à ses parents toxiques.
Oui.
T'en as parlé dans l'émission précédente et je l'ai lu. Et dans l'émission précédente, j'avais parlé de l'allégorie de la vague parfaite. Hein. Pour ceux qui veulent en savoir plus, bah, allez écouter l'émission précédente. Pour ceux qui l'ont déjà écouté, bon, bah, vous savez de quoi je parle.
Bravo.
Mais grosso modo, il était question d'accepter qu'il n'y avait pas de vague parfaite et qu'en gros, la vie, c'était surfer sur les vagues telles qu'elles se présentent. Hein. J'avais d'ailleurs même précisé que dans l'allégorie telle qu'elle avait été présentée dans l'œuvre dont je parlais dans l'émission précédente, il y avait à un moment donné un truc qui m'avait un peu fatigué, même si j'aime beaucoup leur allégorie, c'était le côté « toutes les vagues sont parfaites ». J'avais dit non, toutes les vagues ne sont pas parfaites, il y en a quand même des meilleures que d'autres. Et c'est vrai que cette œuvre m'a permis de détailler cette métaphore, parce qu'en la lisant, je me suis rappelé d'un truc. Ben oui, toutes les vagues ne se valent pas. Hein, il y a des vagues moins agréables que d'autres. Et des fois, dans la vie, on est amené à surfer des vagues de merde. et en fait, l'idée, du coup, c'est que quand on surfe une vague de merde, bah, c'est de faire de son mieux pour pas trop se faire éclabousser. Hein. Mm-hmm. On ferme la bouche, on se bouche le nez, on surfe, on fait de son mieux pour pas trébucher, puis bah, on attend qu'une vague meilleure vienne.
Nous ramène à la surface, voilà, en espérant avoir suffisamment de respiration.
Avant de parler, en l'occurrence, de ce dont je voudrais parler relatif à cette œuvre, donc tu en as déjà parlé, donc pareil, hein, si vous voulez avoir plus de détails sur cette œuvre, écoutez l'émission précédente. Bon, ça reste, c'est un manga qui relate plein de petites histoires de personnes qui ont eu des parents toxiques divers et variés, et c'est vrai qu'il est vachement bien ce bouquin pour ça, parce qu'en fait il y a vraiment plein de styles de parentalité toxique, mais j'aimerais quand même lire le prologue qui est assez court, qui est une bonne entrée en matière. J'ai une voisine qui passe son temps à crier sur son fils. Je t'ai dit de ranger ton bordel. Et tu me réponds oui ou merde. Alors, t'as pigé cette fois ? Ce sinistre concert résonne dans tout le quartier et il peut parfois durer une bonne heure. Nous sommes plusieurs dans le voisinage à avoir contacté les services sociaux, les services de protection de l'enfance. Une fois, la police s'est même déplacée, mais je ne sais pas ce que les agents lui ont dit, car ses vociférations n'ont jamais cessé. Son petit garçon est maintenant au lycée. Aujourd'hui, je l'ai vu s'incliner à 90 degrés en direction de sa mère, partie faire une course. Tout cela se passe à deux pas de chez moi et je me sens complètement démuni. On pourrait penser qu'il suffirait d'intervenir dès que la mère hausse la voix, mais soyons réalistes, elle recommencerait une fois le champ libre. Et même si elle arrêtait de crier, elle pourrait tout aussi bien l'intimider d'un simple regard. Ma propre impuissance me désole. Cet ouvrage est donc ma manière de présenter mes excuses à ce petit garçon. Tous les parents aiment leurs enfants. Il faut savoir se montrer reconnaissant envers les parents qui nous ont élevés. Abandonner ses parents est un acte impardonnable. Je rêve d'une société où personne ne tiendrait de tels propos. Nous souhaitons tous vivre dans un monde où chaque foyer connaît la paix et l'amour. Mais cela relève du fantasme. Je rêve d'une société dans laquelle un enfant a les moyens de s'émanciper de ses parents à l'âge adulte. Une société dans laquelle cette séparation marque la fin de ses souffrances. Pour l'enfant qu'on a été, le moins qu'on puisse faire, c'est espérer. Mariko Kikuchi. Je trouve ce prologue excellent. C'est relativement court. Et elle met le doigt sur quelque chose qui est violent dans l'émission présente. Je parlais du biais de positivité. Et là, cette violence de ce genre de propos qui m'ont toujours fait bondir. Tous les parents aiment leurs enfants ? Non.
Non.
Il faut savoir se montrer reconnaissant envers les parents qui nous ont élevés. Non.
Non.
Abandonner ses parents est un acte impardonnable. Non. Parce que on n'a pas tous eu la chance, pour ceux qui ont eu la chance, d'avoir des parents bienveillants. Et cette œuvre le relate magistralement, en fait. C'est simple à lire. C'est à la portée de tout. tous les âges, plus ou moins. Encore que j'ai envie de dire, si vous avez un enfant qui souffre, même s'il est petit, lire cette œuvre, finalement, lui fera peut-être prendre conscience de quelque chose. Parce que il parle du bien normalité, ce bouquin. C'est-à-dire qu'il explique que, on peut pas se rendre compte qu'on est dans une famille dysfonctionnelle, puisque la seule référence qu'on a, c'est cette famille dysfonctionnelle. Et donc, il devient normal de vivre là-dedans. Et il y a beaucoup de récits où les protagonistes disent « J'ai réalisé que c'était pas normal quand je suis sorti de ma famille. » Mais pendant des années, il y a un moment donné, dans un récit, une jeune femme qui dit que quand elle était petite, quand sa copine disait « Ah, je suis contente de rentrer à la maison », dans sa tête, elle disait « menteuse ».
Menteuse.
Parce qu'elle pensait que c'était comme ça dans tous les foyers. Et quelque part, c'est aussi le seul moyen de survivre à ça, des fois, c'est de se dire « C'est normal ». Et c'est vrai que ce bouquin, il peut permettre, je pense, à certains et certaines de se dire « Mais en fait, non, c'est pas normal. Et moi aussi, j'ai le droit d'en vouloir à mes parents. » Moi aussi, j'ai le droit de vouloir m'émanciper, j'ai le droit de vouloir couper les ponts, je suis pas obligé de garder le contact. Et je parlais d'ailleurs, pareil, dans l'émission précédente, de la notion de pardon et de la différence qu'il y avait entre excuser et pardonner. Et c'est une œuvre qui montre qu'il y a des actes qui sont inexcusables. Même si on souhaite les pardonner pour pouvoir se libérer d'une souffrance, ça veut pas dire qu'on doit excuser l'inexcusable. Et cette œuvre, elle donne plein de récits où il y a des choses extrêmement graves, des enfants qui se font frapper. Là, j'ai une image d'une petite fille qui se fait frapper en plein estomac d'un coup de pied de son père. Une grand-mère qui demande à son petit-fils de lui nettoyer les parties génitales. Donc oui, ce livre est assez dur à lire. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de choses dont je pourrais parler, mais il y a un point en particulier que j'aimerais aborder. C'est en lien avec la notion d'introjection. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'introjection, c'est l'inverse de la projection. La projection étant le fait de, entre guillemets, prendre un bout de soi et le projeter sur quelqu'un et peut-être même voir en l'autre quelque chose qui nous appartient, alors que la personne peut avoir en elle, ou pas, mais qu'en tout cas on projette. Et l'introjection, c'est en fait avoir en soi un bout des autres. Et qu'on ait eu des parents bienveillants ou pas, on doit vivre avec le fait qu'on a introjecté ses parents. On n'a pas introjecté que ses parents, mais on a, entre autres choses, entre autres personnes, introjecter ses parents, et principalement ses parents, parce que ça reste quand même des figures d'attachement centrales.
Ou les personnes qui vous ont éduqué, précise toujours, mais voilà.
On introjecte aussi ses amis, ses frères et sœurs, mais les parents sont quand même...
Pour vraiment aller au bout de ton explication, c'est ce qu'on appelle les relations vraiment primaires. C'est vraiment les premiers instants de la vie, les moments où on a pris soin littéralement de vous, on vous a donné à manger, on vous a changé, etc. Et c'est vraiment des choses qui font que si les parents sont mis en première ligne, c'est parce que ces relations-là sont capitales, sont celles des premiers instants et constituent beaucoup d'êtres, tous les êtres humains, j'allais dire beaucoup, tous.
À un moment donné, dans une des histoires, l'autrice dit « Vous dites que l'influence de nos parents peut aussi révéler de bonnes choses chez nous, mais quand ils nous ont quand même pourri la vie, pour la plupart. » Il répond « Évidemment, c'est bien pour ça que je précise qu'il ne faut pas les pardonner pour autant. On doit simplement reconnaître qu'ils font partie intégrante de ce que nous sommes, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. C'est à partir de ce constat qu'on peut entamer un travail sur soi. » Et il y a un auteur, donc à chaque fois j'écorche son nom, donc je vais le lire, comme ça va m'éviter de faire une bêtise.
Juste temps que tu le lises, je voulais faire un rappel, même si on vous renvoie à l'émission précédente où j'avais introduit, il y a un personnage pivot aussi dans l'intrigue qui est très intéressant, c'est l'éditrice de la mangaka, donc de l'autrice, qui fait personnage tiers et qui permet en fait un glissement progressif vers la prise de conscience que cette notion de parent toxique est une réalité et tout ce que tu as dit avant, qu'on peut s'autoriser à ne pas pardonner effectivement à ses parents ou à qui que ce soit, à d'autres personnes d'autres. Voilà.
Donc Moussa Nabati, qui est docteur en psychologie, psychanalyste, et qui a, entre autres choses, développé un concept que je trouve fort intéressant en la matière, comment justement faire en sorte de pouvoir faire quelque chose et se libérer aussi de parents toxiques quand quoi qu'il arrive, on les a introjectés et donc ils continuent de vivre en nous. Il a un concept d'ailleurs il a écrit un bouquin qui s'appelle « Réussir la séparation » où en fait il fait le distinguo entre d'une part la fusion, de l'autre la rupture et enfin la séparation. D'ailleurs, même avec des personnes saines, il dit qu'il est préférable de vivre dans la séparation, non pas dans le fait de ne pas se voir, mais dans le fait de vivre l'un et l'autre en face à face pour pouvoir ériger un pont entre les deux. Dans son concept de séparation, c'est pas on ne voit plus la personne, c'est elle est en face de nous, mais elle est autre que nous, et du coup, comme elle est autre que nous, on peut ériger un pont entre elle et nous, parce que sans quoi on est soit dans la fusion, c'est-à-dire dans la confusion, quand on est psy et qu'on reçoit quelqu'un qui nous dit « Ah, moi, avec cette personne, je suis dans la fusion », dans notre fort intérieur, on se dit « Bon, ça, il va falloir qu'on l'aborde à un moment donné. » Peut-être pas aujourd'hui, la personne ne se rend pas compte de ce qu'elle dit, mais c'est qu'il y a un truc qui n'est pas encore bien réalisé, justement, dans la notion de séparation. Et il y a aussi la rupture, hein, comme il le dit, hein, c'est le fait d'ériger un mur entre soi et l'autre. Et là, du coup, ça mène à la rancœur, à la bagarre. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que ça peut poser problème d'être dans cette posture-là. Là où une personne qui va vivre dans la fusion, elle va être dans le faire plaisir. Là où une personne va être dans la rupture, elle va être dans le faire chier. Exemple, moi je fais ça pour faire chier mes parents. Je reviendrai sur cet exemple plus tard. En fait, il explique que, quelque part, la fusion mène à la rupture, c'est-à-dire qu'à force d'être dans la confusion, dans le mélange avec l'autre, à un moment donné, il y a des élans de rejet, on peut devenir passif-agressif ou irrité par l'autre avec qui on est en fusion parce qu'on n'arrive plus à savoir ce qu'on fait, si on le fait pour nous, pour l'autre, ou on est confus. Et, comme il l'explique, la rupture mène à la fusion. Si je suis dans la bagarre, si je suis en train de me dire « oui, je fais ça pour faire chier l'autre », mais en fait, quelque part, je ne le fais pas pour moi. Peut-être que je pourrais faire quelque chose pour moi qui ferait chier l'autre. Et ça, c'est son problème. Mais si je fais quelque chose pour faire chier l'autre, je ne peux pas avoir la garantie que je le fais réellement pour moi. Et ce qu'il explique, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est impératif pour pouvoir avoir un rapport sain avec l'autre, quel qu'il soit, qu'il ait un comportement toxique ou pas, d'être dans la séparation, parce que, comme je disais, la séparation, c'est ce qui permet d'ériger un pont, et donc de comprendre l'autre dans les deux sens du verbe, c'est-à-dire comprendre, j'arrive à rendre intelligible ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, je l'arrive à la voir telle qu'elle est, je l'arrive donc du coup à l'accepter telle qu'elle est, donc si elle a des comportements nocifs, eh ben, je vais faire en sorte de m'en protéger d'une manière ou d'une autre, des fois en rompant le lien, c'est-à-dire en ne voyant plus la personne, mais par contre, vu que je l'ai introjecté, comprendre, ça peut s'entendre au sens aussi où justement contenir en son sein. C'est-à-dire que si j'ai introjecté l'autre, même si je ne la vois plus, je continue à vivre avec une partie d'elle en moi. Je la comprends en mon sein. C'est en gros, si on dit la TVA est comprise dans le prix, ça veut dire que dans le prix, il y a la TVA. Si je dis que je comprends en mon sein l'autre, et ben du coup, l'autre vit en moi.
On parle d'ailleurs de conception d'introjection de mauvais objets par moment, donc je pense que tu y reviendras par des moyens détournés.
Donc, quoi qu'il arrive, même si j'ai rompu le lien avec la personne qui a été nocive, vu que je l'ai introjectée, que je le veuille ou non, elle vit en moi. Et c'est là où, quoi qu'il arrive, on doit travailler à... Enfin, on doit, c'est pas une injonction, mais si on veut vivre en paix, il est nécessaire qu'on soit séparé de l'autre. L'autre, qu'on le veuille ou non, vit en nous. Donc, si je suis dans la fusion de cette partie de moi, bah, je suis dans la confusion, je ne sais pas si je fais les choses encore une fois pour moi ou pas, et l'autre peut être décédé et continuer d'exercer une influence nocive sur moi. Et si je suis dans la rupture, bah, pareil, c'est comme ça qu'on peut se dire, je fais ça, ça aurait fait chier ma mère, mais rappelez-moi, votre mère, elle est morte il y a 20 ans, ouais, mais je suis bien content de pouvoir l'emmerder, ok, mais est-ce que c'est juste pour vous? Et c'est à ce moment-là où c'est important de pouvoir être dans la séparation. Et je trouvais que pour une œuvre qui... Oui.
Non, j'allais dire, c'est important quand même, surtout sur un podcast, on a que l'oral, est-ce que c'est juste pour vous, dans la question que tu posais dans un dialogue simulé, c'est est-ce que ça fait sens, non pas est-ce que c'est juste l'expression, voilà, c'est simplement est-ce que ça fait sens, est-ce que,
oui.
est-ce que vous rendez justice en faisant ça en réalité ou pas, enfin
justice et justesse.
Oui, surtout justesse, je me suis repris, c'est pas une question de justice. C'est vouloir faire justice sur l'autre, plutôt, et manquer de justesse pour soi.
C'est ça, c'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment aligné avec ce que je fais, quoi ?
Ouais.
Et c'est pour ça que je voulais parler plus en détail de cette œuvre. La dernière fois, mais je pense que tu avais fait exprès de pas trop en dire parce que tu sais que j'allais lire et que j'allais accrocher. Mais tu vois, c'est une œuvre qui, comme ça, paye pas de mine. Et en fait, j'ai pris. Un truc, ce petit passage-là, il y en a plein des comme ça.
Non, c'en est truffé, ouais.
C'est exceptionnel. Donc, je recommande chaudement survivre à ses parents toxiques et je recommande chaudement, ou du moins, je souhaite chaudement aux personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir eu des parents qu'on pourrait qualifier de sains, de trouver un moyen d'opérer la séparation, qu'elles aient gardé ou non contact avec ces personnes.
Pas grand chose à rajouter, c'était un petit peu l'intention. Moi, j'enfoncerais le clou presque en disant qu'il devrait être quasiment dans... je me souviens, à une époque où je travaillais dans la protection, on dirait que ça fait un montage sauvage, là, la coupe que j'ai faite dans ma pensée. Je me souviens, à une époque où je travaillais dans la protection des mineurs, il y avait une espèce de BD... somme toute assez bien réalisé, hein, qui expliquait ce que c'était que le placement, etc. Même si, tu sais, c'est l'espèce de bouquin ou BD complètement la salle d'attente classique des milieux du social, où les bouquins sont complètement défraîchis, où ça n'a pas été renouvelé depuis, je sais pas. Enfin voilà, bref, c'est pas un cliché, et avec les moins de moyens qu'on a maintenant, de moins en moins. Et il y avait une BD comme ça, c'est juste et tout. Je souhaiterais en fait que ce manga soit distribué dans ces espaces-là. Et quand un enfant, quand tu lui dis le rapport à tes parents, est-ce que tu arriveras à le décrire, ou alors peut-être pas un tout petit, parce qu'il y a évidemment des sujets qui sont, mais je pense que dès l'adolescence, c'est tout à fait lisible.
Mais tu vois, en fait, ça va dépendre parce que
ou
même
sélectionner
un petit,
certaines nouvelles.
C'est ça, parce
voilà,
que même
y a
un
certains
petit,
personnages,
si
on peut...
finalement il vit ce qu'il y a dans le manga, finalement qu'il le lise, ça va pas plus le traumatiser vu qu'il le vit. Je veux dire, si c'est, effectivement, ça pourrait être choquant pour un enfant de 6-7 ans qui a la chance d'avoir des parents équilibrés, d'apprendre que dans certaines familles, la grand-mère demande à son petit-fils de lui nettoyer les parties génitales. Mais pour un gamin qui le vit, ça, d'apprendre qu'en fait c'est pas normal, d'apprendre qu'il a le droit de pas être d'accord avec ça, d'apprendre que d'autres aussi, malheureusement, ont pu vivre cette souffrance, ça peut aussi être salvateur en fait. Donc,
complètement.
Malheureusement, il y a des gamins, ils ont déjà été confrontés. Tu sais, c'est comme, on se tire pas les cartes entre gitans ici, mais c'est pas à toi que je vais apprendre que, un gamin qui a vu du porno trop tôt, faut en parler maintenant. Ça va être nécessaire.
Ouais.
Il va être question de mettre des mots sur ce qu'il a vu. Donc, on va devoir aborder un sujet.
On va pas mettre la poussière sous le tapis, quoi.
C'est ça. Normalement.
On n'aurait pas dû voir aussitôt.
Voilà, c'est ça. On n'aurait pas dû en parler aussitôt, mais il l'a vu. Donc, du coup, oui, on va mettre des mots là-dessus. Et on va faire de son mieux pour essayer de rattraper la casse, quoi. Mais. C'est pour ça que je te dis, effectivement, il faudrait peut-être sélectionner les nouvelles en fonction de...
Ouais, c'est ça. J'ai repensé en me reprenant. Et d'ailleurs, dernier petit détail, on a une réflexion, et je t'avoue, je serais tellement ravi, malgré le sujet, de pouvoir la rencontrer. Il y a un mot d'une psychologue qui travaille au Japon, qui s'appelle Sayoko Nobuta, et qui explique avec sa propre clinique. Et c'est doublement intéressant, parce qu'elle, elle a forgé un certain concept, qui est le concept... donc, elle explique la dangerosité des parents mise en lumière par le concept des adult children. Donc, elle s'appuie un petit peu sur les adultes enfants. Elle appuie tout ça. Et ça m'a un peu agacé, c'est le seul truc dans le bouquin qui m'a agacé, c'est le manque d'ouverture, encore aujourd'hui en 2024, alors qu'on a des possibilités d'édition, et le manque de curiosité. Ça fait des décennies qu'on rabâche des grands auteurs français, anglophones. Ok, il y a des trucs formidables, on le sait, toi et moi on en parle en off régulièrement, mais bon sang, ouvrez vos horizons, en fait. Il y a des approches cliniques dans plein de pays. Le Japon, c'est pas un pays complètement planqué, qui galère à avoir des maisons d'édition. Et la voir dire qu'elle galère, qu'elle se fait tomber dessus d'ailleurs par ses collègues parce qu'elle évoque ces éléments-là, je me dis c'est fou quoi, c'est qu'il n'y ait pas un soutien, une réflexion, et qu'il y a cette côté de chapelle complètement absurde, et puis qu'aujourd'hui en plus, même encore en France, on est en train de forger des fantasmes de concepts qui m'agacent en psychologie clinique, notamment la notion d'ikikomori que tu connais, qui sont ces, ce qu'on appelle en termes techniques les phénomènes de claustration. Donc ce sont des individus, notamment jeunes adultes, qui vivent cloîtrés chez eux, parfois et souvent sous la houlette et la protection et l'aval parental, parfois seul, et qui sortent quasiment très peu, des fois même au point de, désolé hein, pour le détail, mais de faire leurs besoins dans leur chambre, quoi. Et grosso modo, ce concept-là, il est vachement repris en France, en fait, en ce moment, mais avec ce côté, je trouve... tu sais, je sais pas comment dire, mais presque orientaliste, c'est-à-dire on a repris le truc, c'est cool, comme à un moment on avait forgé le concept de syndrome de Paris avec les Japonais qui faisaient des malaises face au contraste avec la ville de Paris et qui en réalité n'avaient aucune validité clinique. Et ça me saoule, en fait. Ça me saoule le manque non seulement de renouvellement sur le terrain au niveau de... Parce que là, on n'est pas en train de parler, on parle de manga, ça paraît léger, la couverture peut laisser l'impression que c'est... Mais bon sang, on est en train de parler du bien-être. Et s'il y a écrit survivre dans le titre, c'est pas un spoiler. Hein, ouais. On parle de la vie. Alors on parle souvent, par exemple, n'y allons pas par quatre chemins, de la dimension de viol, comment se reconstruire tant que faire se peut, parce qu'on sait que c'est jamais totalement possible, d'un viol, d'un inceste, que sais-je, c'est très, malheureusement, ça se révèle beaucoup au moment où on enregistre, de plus en plus, et tant mieux, mais bon sang, là, on est sur des sujets forts, voilà, c'était vraiment une volonté aussi de coup de gueule de pouvoir parler de ça, parce que c'est trop négligé, et c'est trop dans des discours ronflants, des mêmes psys, manque de confrontation à des jeunes générations aussi, qui ont des regards... beaucoup plus alerte. Je suis pas en train de dire qu'ils ont plus de pratique, mais il y a des biais, il faut arrêter les chasses gardées, bon sang. Ouais. Surtout sur un truc pareil où c'est vraiment la santé de, là je le fais pas en discours de politicard, c'est la santé de nos enfants en fait qui en dépendent, enfin qu'on soit parents ou pas, nos enfants, les enfants avec qui on vit, le futur, je dis n'importe quoi, votre futur aide, assistant, si vous êtes en situation de handicap quand vous êtes âgé, bah, ce sera peut-être quelqu'un qui aura pu se reconstruire, voilà. Bref, je pars dans tous les sens. Lisez si vous avez l'opportunité, que c'est pas trop trop rude pour vous, Survivre à ses parents toxiques de Mariko Kikuchi. Voilà.
Ah, pour rebondir sur ce que tu disais sur les chasses gardées, j'ai envie de dire, à défaut de mettre votre cause au service de votre ego, mettez votre ego au service de votre cause.
S'il vous plaît, comme dirait le juge de touche de Roland Garros.
S'il vous plaît.
Alors je vais, vous avez l'habitude si vous nous écoutez, si c'est la première vous en faites pas, on n'est pas du genre à arrondir les angles, mais on enchaîne parce qu'on va pas s'apesantir, pas seulement pour la question de rythme. Moi je voulais, finalement je vais te faire une feinte, je vais pas te parler de l'autre œuvre dont je voulais parler, je la laisse pour la prochaine fois parce que le sujet, je me rends compte, est trop proche, donc on en reparlera la prochaine fois, mais j'ai repensé à un autre sujet que j'ai réussi à reformuler un peu plus clairement. D'habitude c'est Olivier qui a l'habitude de m'amener sur ce genre de réflexion un peu thématique sans forcément avoir d'œuvre dédiée autour, mais est-ce que tu as déjà eu une ou des œuvres où à la sortie du visionnage, du fait d'y avoir joué, de la lecture, tu t'es dit, pas forcément un effet de sidération, mais te dire, je ne sais pas quoi en dire. Tu vois, ce truc, je n'arrive pas à formuler sur l'instant T un avis, une opinion claire, encore moins une critique. Alors je vais te donner quand même du grain à moudre pour peut-être que ça alimente, mais je te vois en train de cogiter, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis non plus. J'ai vu Matrix Resurrection il n'y a pas très longtemps, le quatrième, donc d'après pour beaucoup de gens qui n'existent pas. À l'heure actuelle, ça fait quand même, je crois, un peu plus d'une semaine que je l'ai vu, je sais pas à quoi en penser. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, je suis pas en train de me morfondre, de me dire c'est une forme de curiosité intellectuelle, la preuve, je te la partage là, mais je sais pas quoi en penser, je suis pas... Et c'est pas, tu vois, il y a des cas de figure où tu dis je sais pas en quoi en penser, au sens où l'œuvre m'a tellement... pas du tout touché, tellement elle est pauvre ou neutre, que il y a des choses il y a des trucs qui sont très intéressants dans le film, d'autres je me pose encore question, mais voilà, j'arrête ma question là, je pense qu'elle est assez ou pas claire. Mais...
Je réfléchissais, forcément. Ouais. Mais quand c'est comme ça, je vais re-regarder l'œuvre. Laisser du temps.
Ouais, bah, bien sûr.
Et je vais regarder l'œuvre.
Bien sûr.
Mais c'est quoi le résumé de ce film? Parce que je crois pas que je l'ai vu.
C'est le quatrième opus, on va dire. Et l'idée, c'est. J'annonce la couleur, hein, ça va un petit peu spoiler, très légèrement, mais on part du principe que Neo et Trinity, la révolution de la matrice, etc., est restée dans une espèce de stand-by et qu'il y a eu un statu quo lié à une forme un peu de métaphore comme quoi la matrice est redevenue la matrice. En gros, en fait, tu retrouves Neo comme directeur de jeux vidéo. Il a créé un jeu qui est la matrice.
Okay.
Et en fait, l'ensemble de l'univers n'est qu'une création de ce cher monsieur Anderson, donc Neo. Trinity n'est qu'un personnage dedans, projeté dedans. Il y a des espèces de flash où on comprend pas très bien parce qu'il est effectivement à bosser sur une suite d'un autre jeu, mais on lui dit tout le temps waouh, effectivement Matrix, ça reste quand même ton œuvre phare. Et puis quand même l'agent Smith et c'est son propre patron dans la boîte qui lui dit ça et qui a des flashbacks de l'agent Smith. Donc on a un truc de presque de rêverie dure, on sait pas trop ce qu'il en est. Et c'est cultivé comme ça, et voilà. Et le film fonctionne sur cette base-là. Tu as peut-être vu les affiches où on voit Trinity et Neo sur un côté très crépusculaire, avec une espèce de on sait pas si c'est plutôt lever de soleil ou un truc comme ça, plutôt que coucher. Enfin voilà. C'est dans les grandes lignes, voilà le pitch.
Parce que je me rappelle que quand, pour le coup, le premier, j'ai aimé principalement le premier, les autres, bof.
Ouais.
Mais le premier, je me rappelle, à l'époque, j'étais au lycée et y avait plein de gens qui me disaient « Ouais, oh, j'ai pas tout compris, je m'y suis perdu. » Et pour être honnête, je vois pas ce qu'il y a de confusant, vraiment, dans le premier.
Non.
Pour moi, c'est très clair, les moments où t'es dans les matrices, les moments où t'es pas dans la matrice, après, peut-être qu'en fait, pourtant à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, hein, je suis vieux. Mais peut-être qu'ils n'étaient pas assez concentrés sur ce qu'il y a, je ne sais pas. Mais là, par contre, quand tu m'en parles, j'ai l'impression qu'il y a l'air d'avoir ce côté confusant. Est-ce que c'est le cas?
En réalité, non.
D'accord.
Non, quand tu as fini le film, tout est dit. C'est peut-être justement ce qui a déçu, je pense, certaines personnes. C'est peut-être qu'il y a une forme qui peut paraître trop clair, mais en même temps je trouve qu'il y a des aspects qui, comme pour le premier et pour certains pour les suivants, je te rejoins, hein, moi c'est vraiment le premier qui m'a mis une grosse claque dans la gueule, même si je trouve des qualités aux deux suivants. On est d'accord, on s'est compris, mais c'est pas comparable, vraiment. Oui. Le premier, tout de A à Z était effectivement dans la construction, et le film, comme beaucoup d'œuvres, se suffisait à lui-même. Enfin bref, toi-même tu sais, mais c'est simplement que il manque pas de poésie, pour pas dire de philosophie, en fait, ce Matrix Resurrection, j'en trouve, mais en même temps, tu sens qu'il y a un côté très raboté dans la façon dont il a été fait. Il y a beaucoup de cynisme aussi. Je me suis demandé, bon là je suis déjà en train, tu vois, d'analyser le film, donc finalement d'y trouver des choses, mais je m'en doutais, mais à se demander en fait s'il n'y avait pas, c'est Hollywood, hein, donc on se fait pas trop de mystère, s'il n'y avait pas une forme d'injonction aussi à faire ce film. Voilà, pour l'instant, c'est un peu l'instant où j'en suis, le rapport où j'en suis avec le film. J'y reviendrai peut-être plus tard ou pas, mais je pense que ma prochaine étape, ce sera de voir les bonus sous-entendus officiels, et puis de voir plus globalement s'il y a des éléments sur la fabrication, enfin le tournage du film. Je pense que ça doit être vachement instructif, les interviews qu'il y a pu avoir. Il doit y avoir des choses assez intéressantes.
Mais si vous n'avez pas vu Matrix 1, c'est une bonne version moderne de l'allégorie de la caverne de Platon.
Oui, et aussi des œuvres de Baudrillard sur la notion de simulacre. Tu parlais, tu vois, on est trop vieux par rapport à l'époque, il n'y avait pas de smartphone.
C'était le bon, non.
La notion de simulacre, sur un rappel très succinct, et les philosophes m'en voudront sur la façon dont je suis très, très bas du front dessus, c'est le fait que la représentation de l'objet prend le pas sur l'objet de lui-même. qui est toute l'allégorie de Matrix, hein, le fameux discours du steak dans Matrix, c'est un peu ça. Dans les grandes lignes, Baudrillard parlait beaucoup d'un attachement par aspect quasi fétichiste à une photo plutôt que la présence de l'individu. Et d'ailleurs, je fais une micro digression, mais il y avait une vidéo de je crois que c'est Sonia De Villers qui est une ancienne chroniqueuse chez France Inter qui fait maintenant j'ai peur de dire une bêtise, je revérifierai son nom, mais qui fait des vidéos maintenant qui s'appelle, je crois, l'instant M ou un truc comme ça, qui est c'est des vidéos d'une dizaine de minutes de décryptage médiatique. Donc tu vois, tu prends une photo dans un journal, une vidéo qui a fait le buzz, ça va de, par exemple, pourquoi est-ce que les destructions d'objets au ralenti sous les presses hydrauliques nous fascinent autant, pourquoi c'est si satisfaisant, etc., etc. Et elle avait fait une vidéo sur je sais plus quel quantième point marqué par LeBron James, donc le basketteur NBA, et la vidéo la plus emblématique, c'est un gars de renom, justement, de photographe pour la NBA, et tu le vois en posture, il va prendre le shoot pour marquer, et tu vois une armée de gens debout avec leur téléphone, dans l'idée, en fait, de co-construction, l'histoire va être construite et on va co-construire, en fait, le fantasme, en tout cas, pour les spectateurs. Et l'émission est géniale. Enfin, la plupart des émissions, je vous retrouverai pendant que Olivier prendra la parole le titre de l'émission, parce que ça va me stresser. Voilà. C'était juste un parallèle sur la notion de simulacre. Voilà, voilà.
Qu'est-ce que tu as déjà vu, toi, de Quentin Dupieux?
Ah, tu vas me parler de Dali, toi.
Non, je ne l'ai pas vu.
Ah, tu ne l'as pas vu? J'ai vu Rubber, j'ai vu Steak, j'ai vu une partie, parce que ça a été un visionnage avorté de Au Poste. Qu'est-ce que j'ai vu de Dupieux? Flûte, rappelle-moi des trucs que j'aurais pu voir dans les emblématiques. Surtout les films du début.
Tu as fait la même erreur que moi.
J'ai pas vu Réalité. Voilà, ça c'est mon grand regret.
Je n'ai pas encore regardé. Parce que là, je suis en train de me mettre à jour. Moi, je m'étais arrêté à Rubber et Steak.
Ouais.
Et j'ai voulu aller voir Dali, et au moment où j'étais disponible pour aller au cinéma, tout ça, avec ma femme, tout ça,
ouais.
Il n'y était pas là, à ce moment-là, dans ce cinéma. Donc, du coup, on a regardé le Marley, je crois qu'il s'appelle, le film sur Bob Marley. J'ai oublié le titre. C'est sympa.
One Love, non?
One Love, c'est ça. C'est sympa, ouais, ce film, j'en parlerai pas, parce que, non pas parce qu'il n'est pas bien, au moins ça le mérite
ça
de
faire
écouter.
Ça fait la job, comme dirait voilà, nos amis québécois.
Je connaissais déjà l'histoire du personnage, donc elle est bien relatée, bon, elle est romancée aussi, hein, et au moins ça le mérite de te faire écouter du bon son. Le film, c'est un bon film, hein, c'est juste que j'aurais pas grand-chose à en dire. Par contre, du coup, un peu frustré, parce que j'avais vraiment envie de voir Dali, comme Dali est l'un de mes peintres favoris, je me suis dit, attends, Dali, Dupieux,
ça peut faire des étincelles, tout ça.
Et puis je me suis dit, mais attends, mais Dupieux, mais en fait, il y avait aussi un autre film que tu voulais voir de lui, que t'as raté, t'as pas pu aller au cinéma et tout. Mince, j'ai oublié le titre, je l'avais dans la tête il y a deux secondes. C'est un prénom. Tu vois pas?
Si, c'est avec Adèle Exarchopoulos en actrice principale, non? Vas-y, je vais te le retrouver, t'inquiète pas.
Et donc, du coup, je me suis dit, attends, tu sais quoi, Yannick, tu vas.
Oui.
Tu vas rattraper ton retard, parce que moi, à part Rubber et Steak, qu'il faut que je me refasse d'ailleurs, ça m'a donné envie de me les refaire.
On s'organise ça.
je m'étais arrêté là.
Ok.
Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, il faut que je regarde Yannick. Parce que Yannick, il me faisait vraiment très envie.
Pareil.
Il est génial, ce film. Alors, par contre, j'en parlerai pas, parce que ce qu'il y a à en dire spoil le film. Mais il est ultra touchant. Si, ce qu'on peut dire du début, mais je trouve que c'est pas le plus intéressant, mais ce qui a déjà été dit...
Alors c'est génial, si tu me dis que c'est pas le plus intéressant, effectivement.
Parce que ce qui a été dit, c'est cette critique de le snobisme des gens qui s'intéressent au théâtre versus les gens qui s'intéressent pas au théâtre. Forcément, vu l'émission qu'on fait, ça nous parle, ce côté. D'autant qu'en plus, il va voir un vaudeville médiocre, et les gens le prennent de haut. Enfin, Yannick, donc c'est un personnage, donc il est agent de sécurité, gardien de nuit. Mmh. Il a pris une journée, parce qu'il travaille 7 jours sur 7 pour aller voir une pièce de théâtre, il se fait chier. Et c'est vrai qu'en plus, le truc est mal écrit, parce qu'on voit une partie de la pièce pas forcément bien joué en plus. D'ailleurs, les acteurs qui jouent, dont il y a Blanche Gardin, joue très bien la personne qui joue mal. Il arrête la représentation pour dire qu'il est déçu parce qu'il a pris une journée de travail, qu'il a fait je sais plus combien de temps de trajet de RER, et que lui il était venu pour se divertir, et que il est hyper déçu parce qu'il trouve ça nul. Et donc on le snob, alors ce qui est vrai, il prend le public en otage, on lui demande de partir, on lui dit que ça se fait pas, que si ça lui plaît pas c'est ok et qu'il peut partir, ce qui est pas faux, mais il y a quand même beaucoup de snobisme, les gens qui le prennent de haut et en fait il va pour partir et en fait il entend que on se fout de sa gueule, mais c'est intéressant parce que les points personne n'est vraiment, tout le monde est un peu moqué sans pour autant être diabolisé non plus. C'est-à-dire que on comprend pourquoi les acteurs ont besoin de décompresser, parce qu'ils ont été arrêtés en pleine... Ils n'arrivent pas à reprendre. On s'est mis en scène, ça aussi, qu'ils n'arrivent pas à reprendre. Donc, ils essayent de dédramatiser en rigolant. Tout ça, c'est compréhensible, sauf qu'il l'entend. Et ça le blesse, et il revient avec une arme. Et là, il les prend littéralement en otage. Il les prend en otage dans le but, lui, d'écrire une pièce qu'il va les amener à jouer. Et c'est ultra touchant ce qui se passe dans ce film. Franchement, ce film est magnifique, mais je ne peux pas dire ce qui est touchant, parce que là, par contre, ça serait un spoil monumental. Mais du coup, je ne me suis pas arrêté là. J'en ai regardé d'autres. Alors, j'aime beaucoup son univers. Hein, ça... Mais il y en a un dont je voudrais parler, c'est Incroyable mais vrai. Je ne sais pas si tu l'as vu, celui-là.
Ça me dit rien.
Avec
comme ça.
Alain Chabat, j'ai oublié le nom de cette actrice. T'as pas mal d'acteurs connus. T'as Léa Drucker, tu as Benoît Magimel,
ouais.
Donc Alain Chabat. T'as des grosses têtes d'affiches comme ça. Et en fait, le concept est génial. Pour parler d'un truc très courant.
Je ne l'ai pas vu passer du tout.
Non, celui-ci, okay. Yannick et celui-ci, il faut... Alors, c'est pareil, c'est marrant que tu dis ça, parce que je regardais quand même du coin de l'œil ce que faisait cet auteur,
ouais.
Sans les voir. Mais celui-ci, j'en avais absolument pas entendu parler. Et le pitch, c'est... Alain Chabat, donc du coup, qui s'appelle Alain dedans, et Léa Drucker qui s'appelle Marie, achète une maison. C'est le premier achat qu'Alain Chabat fait, donc il a eu un certain âge dans le truc, il y a ce côté de la pression, de il faut rembourser le crédit, tout ça, machin. Mais cette maison, elle a un atout, c'est que à la cave, il y a une trappe qui permet, si tu rentres dedans, de ressortir par le plafond de la maison, donc au-dessus, et de ressortir 12 heures plus tard, mais en ayant gagné 3 jours de jeunesse. Tu rajeunis 3 jours, mais tu arrives 12 ans plus tard.
12 heures.
12 heures, pardon. Oui. 12 heures plus tard, oui. Et ce concept est génial, parce que, en fait, sa compagne, Marie, elle va être omnubilée par le fait d'utiliser ça, ce qui fait que, mais quand tu fais le calcul pour qu'elle puisse rajeunir, à chaque fois, en fait, il y a 12 heures qui se passent. Donc, en fait, elle passe à côté de sa vie à la quête de la jeunesse. Alors, j'en dis pas trop sur ce que ça a comme implication à différents... Jusqu'où elle va ou...
L'affiche est très rigolote, d'ailleurs. Je l'ai vue en cherchant aussi dans le sens...
Et il y a aussi... Donc, Il y a aussi, alors ça, je vais pas en parler parce que je veux laisser la surprise aux personnes qui le verraient. Il y a aussi Benoît Mégimel qui joue donc le patron et le meilleur ami d'Alain, qui lui. Ce film, oui, je ne l'ai pas dit, il est très anachronique. Les décors, c'est les années 80, mais ils ont des smartphones. Ils ont des cigarettes électroniques.
Bon, après, il a ce délire-là, oui, dans ses décors, oui, très, oui, souvent. Mais, au poste, c'était un peu ça.
Mais c'est magnifiquement fait. Franchement,
oui,
c'est...
Oui, là-dessus.
Et puis, pareil, donc du coup, donc Gérard, le fameux patron d'Alain... il a des vieilles voitures, mais parce qu'il collectionne. Enfin, il a des voitures de collection, quoi. Et donc, ce fameux Gérard a été faire une forme de chirurgie pour pouvoir obtenir quelque chose qui lui permette, lui aussi, d'une certaine manière, de conserver une jeunesse qu'il est en train de perdre. Donc, j'en dis pas plus. Et quelque part, c'est pareil, avoir des voitures de collection, c'est collectionner des jeux vidéo anciens, c'est aussi un moyen
de garder
un lien avec le passé. Et dans une certaine mesure, c'est aussi refuser le temps qui passe. Et donc, ce film parle de ça, mais parle aussi des conséquences que ça peut avoir de refuser le temps qui passe et d'être dans une course effrénée à un retour en arrière. Ce film aussi est génial. Alors, je trouve que d'un point de vue touchant, Yannick, il est
ouais,
vraiment...
Pour moi, il est assez prioritaire avec réalité, Yannick.
Tu l'as vu, toi, Yannick ?
Non.
Ah.
Non, je devais, comme toi, je l'ai loupé comme le film que tu prévoyais de voir, le Dali, quoi. Je devais aller le voir avec deux amis.
Yannick, il est vraiment très touchant. Et ce que j'adore, en plus, avec Dupieux, c'est que les films sont pas longs.
Ouais. Oui, on est sur du 1h15, 1h30.
Même moins, la plupart, c'est 1h10, 1h15. Hein. Et c'est agréable, ça aussi, des films courts.
Ah bah moi, tu prêches un converti, hein, tu connais la concision.
Et qui racontent ce qu'ils ont raconté, quoi. Alors ça se finit souvent en queue de poisson, ces films, mais à la limite, on s'en fout, parce que c'est pas la fin qui compte, c'est l'histoire que ça t'a raconté, quoi. Je pense que ça aurait été un bon auteur de manga, dans le sens où c'est un très bon narrateur.
Pardon, j'allais faire un gros troll en mode à quand Dupieux sur One Piece pour que ça finisse.
Oula.
Coucou les fans.
mais ouais, donc c'est donc du coup, à mon avis, je vais reparler de films de Dupieux.
Ah bah écoute,
parce que...
s'il y en a que tu prévois de voir et qu'on n'a pas vu en commun, avec plaisir.
Ah bah il faut qu'on se fasse ça.
Allez,
ouais, bah, en fait, c'est simple, tout, je vais tout me faire. Parce que
viens ici.
Parce que oui, je mais quelque part, je regrette pas de ne pas les avoir vus avant, parce que j'ai le plaisir de les découvrir maintenant.
Alors, ça tombe très bien.
Ça tombe très bien. Oh, j'ai fait une blague. Qu'est-ce qu'il fait ? Pathologie du cadre.
Non. En fait, il n'y a pas besoin de lire, il n'y a pas d'indice sur ce que je pose. L'espère. Commente si tu veux, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de feuilleter.
Ok. Donc, il comprend pas. T'as un toc d'alignement, c'est ça ?
A little to the left. Un jeu vidéo, en l'occurrence, qui va faire à peu près ce que j'ai fait. Vous n'aurez pas la vidéo, mais en gros, j'étais en train d'aligner des bouquins face à Olivier, de les mettre bien droit. C'est le concept principal de Little to the Left. Et moi, j'adore ça, en général, quand je peux avoir l'occasion de ranger des trucs.
En bon obsessionnel,
c'est
que tu
assez
es.
Plaisant. Ça m'a cassé les pieds. Je me suis fortement retenu parce que en termes de restitution d'expérience de jeu ça ne marche pas et ça lasse beaucoup trop vite. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de témoignages, certains de mes étudiants, hein, je les salue, un certain Théo, voilà, il se reconnaîtra, m'a fait le même témoignage que moi. Alors moi, j'ai été très tolérant parce que j'y ai joué en live, donc forcément tu fais toujours un peu plus durer, ne serait-ce que par rapport au fait que les gens soient avec toi. Bon, après je me suis pas interdit d'arrêter un moment et faire bon ça suffit, donc j'ai bien poussé sur la bonne heure et demie de jeu, mais grosso modo, donc ce cher Théo, étudiant dont je te parlais, il m'a dit au bout d'une demi-heure ça m'a saoulé. Donc, je répète le concept. Donc, vous avez plusieurs situations où vous allez devoir ranger des objets, des crayons, des pâtes, les pâtes alimentaires, hein, macaroni, rigatoni, fusilli, ce que vous voulez, les cuillères,
pepperoni.
les cuillères dans votre cuisine, des cartes postales, ce que tu veux. Sauf qu'il faut les ranger à chaque fois avec une certaine logique. Donc, par exemple, les crayons, tu te dis, bon, par taille à la limite. Ah non, c'est pas ça. Ah d'accord, en fait il y en a qui ont la gomme plus usée que d'autres, donc c'est ça. Donc tu trouves la logique. Ok, au début c'est plutôt sympa.
Pour le moment ça me parle. Hein. pour le moment tu vois.
Je signe où ce serait très bien d'avoir un contre-exemple. Il est sur le Game Pass. Donc grosso modo, tu ranges machin. Et puis de plus en plus en fait la logique est de plus en plus capillotractée.
Après,
quoi.
Je pense que c'est ça, en fait. C'est pas parce que j'aime bien ce concept de trouver la logique.
Ouais.
Pourquoi
Le moment où je commençais à me dire, c'est quand j'avais trouvé la solution quand même, mais tu vois, le fait de faire l'effort du truc m'avait déjà saoulé.
Est-ce que t'as soufflé du nez à ce moment-là?
Ah oui, ça s'est entendu. Je l'ai fait en live, donc ça s'est entendu. Donc oui, ah oui, notre ami, j'ai oublié. Comment il s'appelle notre ami du calme et de la sérénité, factice On vous retrouve à son nom, un gros escroc, ouais, escroc, c'est le mot que je cherchais. non, j'allais dire une autre connerie liée à Benjamin Tranier, mais rien à voir. A little to the left, donc par exemple la logique des pattes, comme je te disais, au début je me dis c'est rangé par taille, parce qu'on en avait plusieurs, et finalement en fait c'est la forme, il faut mettre les plus droites en premier jusqu'aux plus courbées. Ou au plus entortillé. Et là, je commençais à me dire, ouais. Pourtant, il y a un système, tu vois, qui est pas débile de révélation de logique par niveau. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont fait fort. Tu vois, comme quoi, mes chers amis, ne jamais jeter bébé avec l'eau du bain, comme j'aime à dire. La critique, c'est pas comme vous le font certains youtubeurs ou twitchers, c'est pas chef-d'œuvre ou de la merde. Là, tu vois, par exemple, un truc qui est bien fait, c'est la révélation des solutions de niveau. En gros, tu vas dans le menu de révélation, qui est un sous-menu du jeu, et tu as un carnet de croquis et une gomme à côté avec un truc qui est raturé, enfin tu sens que ça couvre une illustration. Et en gros, en fonction de ce que tu vas effacer à la gomme de ce qui est raturé, tu vas révéler la solution. Donc tu vois, dans la logique obsessionnelle, c'est pas mal. Si tu te dis, j'ai une petite partie, je veux juste le bout d'indice du truc qui pourrait me... Donc voilà, comme quoi il y a des trucs qui sont pas si couillons, mais globalement, l'expérience de jeu... Voilà, j'ai fait une heure et demie, j'étais vraiment épuisé et saoulé, quoi. Donc voilà, et je vais... Alors, je laisserai sa chance, mais j'avais très envie d'aimer un jeu, notamment parce que c'est un cher ami qui me l'a recommandé, et malheureusement, bah non. C'est un jeu qui s'appelle Uppers, qui est un jeu de Bayard, un beat'em up, qui en soi, sur le papier, a tout pour lui, parce que c'est vraiment du mix de Ken le survivant, Jojo, tu peux faire des espèces de combos de trucs mais complètement déjantés avec deux meilleurs copains en mode soit le duo de GTO là, soit ce que tu veux en mode de binôme shonen, et en fait toutes les mécaniques du jeu sont tournées autour du fait que, alors au début pourquoi pas, mais ils le font pour plaire aux nanas. Ok. Pourquoi pas, c'est pas la première fois qu'on voit un truc comme ça, surtout dans une œuvre shonen plutôt à destination des garçons, mais c'est hyper scabreux, et je me rends compte que c'est acté, c'était déjà le cas depuis très longtemps, mais je suis plus du tout, même dans le over the top, je suis plus client de ça.
Ouais.
Il se trouve que, au début, tu tapes les mecs, il y a des moments, il y a des nanas qui sont là en mode « casse quoi ?» et t'encouragent et tout, et tu peux te rapprocher d'elles et récupérer des love letters. Tu dis « c'est cool, c'est mignon, c'est à peu près rafraîchissant, ce truc séduction basique, machin, mais bref. » Et puis, au fait, au bout d'un moment, t'as des events pour déclencher plus de pouvoir, où en gros, si un ennemi qui te frappe à proximité de ces nanas-là, tu peux esquiver le coup, et le courant d'air va relever la jupe de la nana, et il va falloir que tu mitrailles ta touche pour pouvoir révéler, en fait, un combo de plusieurs motifs de culotte et avoir un coup, une spécialité technique. Et là, j'ai fait, putain, ah mais ouais, non, ça partait tellement bien. Enfin, l'idée sur le petit truc bateau de adolescent de séduction, pas méchant, qui... Et puis, putain, et là, je te jure, ça, vraiment, les bras m'en sont tombés. J'ai fait deux niveaux et j'ai vu que c'était en plus le jeu, tu sens qu'ils ont mis tout le pognon dans la direction artistique, cel shading et tout. Tu vas pleurer, hein, tu vas le voir visuellement, même en toon shading et tout. C'est très sympa. Il n'y a pas beaucoup de moyens, parce que ça se répète beaucoup et tout. Et tu fais, non, c'est vraiment, c'est pas possible. Donc ça me fait mal à la gueule parce qu'il y a toutes les recettes qu'on peut apprécier dans un beat'em up, mais bon, tant pis, la terre est suffisamment grande, il y a suffisamment de beat'em up géniaux. Au pire, je relancerai River City Girls, qui est un joli pied de nez en termes de grand écart par rapport à ça. Mais voilà, c'était juste Uppers. Franchement, si vous êtes attiré par une bande annonce, et désolé, cher ami, il se reconnaîtra, je te fais des bisous, mais c'est pas possible, c'est plus pour moi.
Ouais.
Voilà.
Attends, on va conclure en rigolant un peu.
Allons-y.
Je sais plus si c'était dans la première ou la deuxième émission où j'avais parlé de ma conception de la méditation, qui m'est personnelle, hein, mais ça c'était avant, parce que en cherchant donc j'arrivais
ça,
plus à retrouver.
Ça c'est vrai, tournure d'escroc.
Attends, mais tu vois, t'es prêt? Non, t'es pas prêt.
Rassieds-toi.
Je me rappelais que la personne, l'escroc dont on parlait s'appelle Laval. Son nom de famille, si c'est vraiment son nom de famille, mais je me rappelais plus de son prénom, et je me suis dit, attends, si je tape Laval méditation, obligé je vais tomber sur lui avec sa tête là, et donc c'est Jean Laval, et donc ça me met un lien sur son site internet jeanlaval.com, et où justement il y a un article, il y a un texte, oui, alors accroche-toi à ton slip, hein.
T'inquiète.
Tu parlais de petite culotte, t'es prêt, t'es pas prêt. Le problème de la méditation, alors je vais essayer de vous le faire à
sa sauce.
Ces dernières années, partout, parce que partout est écrit en majuscule, partout, on a vu les mérites de la méditation vantés. Études scientifiques, interviews de grands neuroscientifiques, reportages, tout mentionne... Je suis pas super doué en orthographe, mais quand même, mec, ça, c'est sur ton site internet, bref. Mentionne combien la méditation est essentielle à votre bien-être, écrit en gras avec essentiel en majuscule. Donc, d'ailleurs, c'est marrant parce que quand il parle, il fait pas ce genre de choses. Hein, là. Mais là, il faut qu'il accroche le client, c'est comme ça qu'on
oui,
dit.
Oui, tout à fait. La rétention du client.
Et avec ça, quantité astronomique d'articles, vidéos, livres, audio, applications pour vous, entre guillemets, apprendre à méditer. Si bien que tout le monde s'y est mis, comme si c'était la solution miracle à tous les problèmes existants. Pour rappel, hein, il a fait des trucs de vidéos sur la méditation en disant les bienfaits de la méditation. Mais bref, il est plus à une contradiction près. Tout le monde a commencé à méditer sans savoir ce qu'est vraiment la méditation. Mais heureusement, je crois que lui, il le sait. On est sauvés. Sans savoir comment méditer, ni même pourquoi ils le font. Et la grande majorité a fini par abandonner en gras. Et puis, il y a ceux qui ont des préjugés sur cette pratique. C'est trop perché. Je pense trop, je n'arrive pas à méditer. C'est un truc religieux, ça sert à rien. Et finissent par se dire, la méditation n'est pas pour moi, en gras. Vous vous reconnaissez ? En gras, point d'interrogation. Vous aussi, chaque année, vous mettez dans vos résolutions méditer, mais vous ne la tenez pas. Vous avez l'impression que c'est inaccessible. C'est normal. Gras, majuscule, souligné. Il vous manque les bases, en majuscule, les techniques, les connaissances. Et là, il y a une magnifique photo où on voit une femme qui médite avec une croix en rouge, et lui à côté qui médite avec une petite
enfin croix rouge validée ou erronée,
oui, c'est ça,
quoi.
C'est
voilà.
Ça. Donc l'autre,
bonne pratique, mauvaise
pratique.
Et
c'est juste une photo, donc on peut pas. Mais par contre, il a bien mis une photo de lui pour dire que lui il sait faire. Par exemple, sur cette photo, remarquez-vous la différence ? Non, celle à droite fait sûrement semblant de méditer pour la photo. Alors, attends, à droite, mais non, la photo, elle est à gauche.
Et con, va, t'es pas capable de...
Oh merde, je t'avais dit, on allait rigoler.
Ah, le champion.
Donc, la photo de la jeune femme est à
Mais c'est bien, en fait, si c'est vraiment... Si c'est un fail, c'est fabuleux.
Ça s'appelle un acte manqué.
Ah hein. Oui. Et pas qu'un peu.
Celle à droite, faire sûrement semblant de méditer pour la photo. Alors, j'étais en...
Et en plus, il se met genre, le con.
Et il y a des fautes. Parce qu'en fait, je pense qu'il a voulu écrire « alors que j'étais en plein état ». Il y a écrit « alors j'étais en plein état méditatif lorsque la photo de moi a été prise ». Ce n'est pas... Il doute de rien. Ce n'est pas une bonne posture, un tapis, un legging et les yeux fermés qui font ce que l'on médite vraiment. Bah oui, bah c'est pareil pour toi, mon garçon.
Le cosplay du...
Il est temps de remettre les choses dans leur contexte, de casser les préjugés, d'avertir les arnaques. Putain, mais il a du culot. Et de poser les vrais enseignements de méditation.
Oui! Comment ?
Et là, tête, smiley, tête qui explose.
Ah ouais.
En majuscule, gras. Avez-vous déjà eu envie de vous libérer de toutes vos pensées ? Moi, oui.
Avez-vous déjà eu envie de mettre une descente du coude ?
Donc, c'est juste pour info, quelqu'un qui vous dit qu'il peut vous libérer de vos pensées, on ne peut pas arrêter de penser, ce n'est pas possible. C'est pas comme... Arrêter de penser, c'est comme arrêter de respirer ou arrêter de voir son cœur battre. Hein. Le jour où vous serez mort, oui, mais de votre vivant, non. Par contre, on peut apprendre à faire abstraction de ses pensées, mais bref.
Tu te fais du mal.
Vous savez, quand vous êtes fatigué toute la journée et que votre seule envie est de retrouver votre lit, mais qu'une fois que vous y êtes, votre mental vous joue des tours et ne s'arrête pas. Il va nous dire qu'il soigne le cancer dans deux secondes. Quand vous avez besoin de vous concentrer sur une tâche difficile, mais que vous êtes distrait par tout ce « c'est il faut que ». Non mais j'aime bien parce qu'en plus, il dit « oui, on vous donne des mauvais conseils ». C'est ça justement qu'on n'arrête pas de lire partout.
Alors que faire une lessive en se concentrant
encore,
sur les tâches suffirait largement.
Quand vous ressassez encore et encore et encore et encore, putain, mon Dieu, j'ai pas exagéré.
T'as pas rajouté d'encore,
non,
ouais.
Voilà. Un même problème, putain, mais ça tu le fais à l'oral, pas à l'écrit, quoi.
Bah oui, mais il s'est fait arrêter pour le jour.
Quand il vous prend littéralement la tête et que vous ne parvenez pas à en sortir, parfois, on rêverait de pouvoir simplement mettre notre cerveau sur pause, de respirer. Et c'est justement possible avec la méditation. Putain, c'est super long, je vais pas tout faire.
Nonobstant ce PDF de 300€.
Non, mais attends. C'est hyper long, il bourre le crâne. Mais par contre,
il y a une douille ou pas à la fin ?
Mais c'est ce que je cherche. Bah, ou forcément.
Il y a un lien.
Je le cherche.
Alors, si on en avait parlé
donc,
lointainement, mais c'est un peu un Jean-Michel escroc avec des conseils à la mort moelleuse, vous l'aurez deviné.
Il voilà. Te met des tartines, d'ailleurs, je suis désolé, oui. Mais je veux dire, ça, à l'écrit, je pense que les gens ne lisent pas. Mais. Et ça finit par le programme de la formation.
Ah, le dessert.
J'arrive pas. Ouais, mais ça. Ah non, c'est des trucs, faut s'abonner après.
Ah, bizarre.
Votre mental vous sert des excuses. Cette partie est pour vous. Je n'ai pas le temps de m'asseoir pendant des heures. Ouais, enfin bref. Bon.
Cliquez.
Je n'ai pas l'argent, c'est trop cher. Regardez autour de vous.
Oh là là.
Avec quoi lisez-vous ces mots ? Dans quel environnement vivez-vous ?
Avec mes
que
yeux,
portez-vous ? Oh mon Dieu !
Allez, on arrête.
Formation en ligne.
Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc,
arrêtez d'être harcelé par vos pensées. Reprenez le contrôle sur votre mental. Bref.
Ouais, arrêtez d'être harcelé par vos pensées. Harcelez vos pensées.
Donc, c'est 149€.
C'est vrai ?
Oui, c'est méditation de A à Z. Parce
voilà.
Qu'en plus, oui, mais attends, 149€, qu'est-ce que c'est ? Tu vas être libéré.
Pour ne plus être harcelé par ses pensées,
attends,
c'est pas grand-chose, Olivier.
Et c'est de A à Z, hein.
Tu, 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 tu. Voilà. Et aujourd'hui au télé-shopping de Jean Laval.
Voilà, voilà.
Ouais, bah écoutez,
oh, mais le
petit défouloir. Hein.
Celle à droite, il est juste exceptionnel, ce garçon. Ça, c'est.
Mais on va investiguer d'ici à la prochaine fois et on va voir si c'est vraiment foutu dedans jusqu'au bout. Mais apparemment, il n'y a pas de raison. Il s'est auto-sabordé avec son acte manqué de dire la mauvaise posture, c'est la sienne. C'est formidable.
Bah, en fait,
ça, c'est le plus beau de l'ensemble. Quoi.
Dans le texte, il dit celle à droite, donc comme c'est une femme, même si elle est à gauche, il dit alors que j'étais. Enfin, alors j'étais, il n'y a pas le que, putain. Alors j'étais en plein. Il médite peut-être beaucoup, mais il n'est pas capable d'être dans l'instant présent quand il écrit ses textes. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien.
Hop là ! On Bref. Éteint, on range putain. Et on va fermer.
Oui, il on va tard. Fermer boutique. Je vais rentrer chez moi.
S'il vous plaît, JPP.
Il faut que j'aille méditer là pour faire abstraction de ces conneries.
On va aller, tu sais ce qu'on va faire ? On va aller chez lui. Et on va prendre un flingue et on va l'éduquer comme Yannick, mais on va l'apprendre vraiment méditer et arrêter d'escroquer les gens. Bref, sur ce et sur un ton autrement moins dans l'injonction et la débilité et l'arnaque de ce cher soyez monsieur
heureux,
Laval.
Soyez heureux. Ouais. Vous ne pouvez pas être heureux si on ne vous donne pas la bonne méthode pour l'être. Donc, écoutez, il faut qu'on fasse un Patreon spécial pour que les gens puissent être heureux, je pense. Il doit y avoir un truc à faire.
Le patron happiness. Sur ce, nous, on vous donnera qu'un seul indicateur. Vous y mettez ce que vous voulez.
Namasté.
Namasté à vous, comme d'habitude. Merci d'avoir été avec nous sur ce nouvel épisode de Home, votre podcast pleine conscience, tellement pleine conscience qu'il est partout sur les internets, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, malgré Olivier qui me voyait galérer comme pas permis, mais je trouverai des stratégies un peu plus sympas pour la prochaine fois, des petits extraits à venir. Ça va vous régaler, on espère, en complément de l'audio. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine fois. Ciao.